vous avez le plan quand même en votre copie, je pense. Vous l'avez, le plan de la... De toute façon, vous l'avez mis sur le tableau. Le plan de la... du ressort intime de la... du cheminement de l'humain, vous avez ça. Hein. Je vais donner le plan. Bon, moi, je vais penser avec ça. Dans le texte qu'on venait de lire au début de la... à la fin de la séance dernière, c'était justement ce récit où Newman a été, après avoir eu un certain penchant pour les écrits qui étaient plutôt dans le sens du rationalisme et des lumières, a été comme ramené à Dieu par une lumière éclatante sur la présence vraie de Dieu à toute sa vie. Et on, Jean le représente ça de telle façon que on voit bien que, d'ailleurs la lecture même du texte aussi permet de l'analyser comme ça, qu'il ne s'agit pas simplement d'une expérience émotionnelle d'adolescente, un enthousiasme affectif passager, mais que c'est dans l'intelligence précoce de l'humain que la lumière a été donnée, au fond que c'était Dieu qui était premier dans sa vie. Et aussi, et ce n'était pas non plus... Oui, vous avez des photocopies en... Oui, c'était pas des... c'était pas un repli. Et puis le pauvre père qui était... Vous cherchez où est-ce qu'il est maintenant. Il y a... Oh. Il vous reviendra.
C'est un Américain.
Ça, c'est du racisme, quand même.
Ils
sont
séparés dans la terre.
Pas une grossesse difficile.
Oui.
Bon, on continue. C'est ça. Donc, ce n'était pas simplement passager. Et d'ailleurs, Newman rapporte dans l'apologie et Bernoré le cite ça aussi, c'est que beaucoup plus tard, dans une lettre à une femme, Anne Moseley, il écrit ceci, une quarantaine d'années plus tard. À coup sûr, il n'est pas possible de te juger de soi-même. Cette réserve faite, je voudrais dire qu'il est difficile de réaliser ou d'imaginer le même garçon avant ou après 1816. Je puis me tourner en arrière à la fin des années 70, à l'âge de 70 ans. Et si je regarde, comme si je regardais vers un autre, c'est-à-dire qu'il voyait comme s'il est devenu autre, et il en a très bien le souvenir de ça, même à l'âge de 70 ans. Et on peut dire aussi que, et ce qui est assez extraordinaire, c'est que, merci Père quand même, hein, oui. C'est par la médiation d'auteurs calvinistes qui finalement étaient assez étroits dans leur manière de comprendre la raison de salut, la raison de Dieu dans le plan de son plan de salut. Et c'est malgré, il a laissé tomber les éléments qui étaient négatifs, comme le fait par exemple de se savoir sauvé d'une façon psychologiquement certaine, ou le fait de savoir que certains étaient sauvés dans lui et d'autres pas, etc. Tous ces éléments-là, il les a simplement laissés tomber pour ne retenir que la manière dont ces hommes, qui étaient quand même pleins de piété évangélicaliste, ont influencé son itinéraire spirituel, bien qu'ils ne fussent que calvinistes, si vous voulez. Et alors, cela est assez extraordinaire. Et une autre chose qui est très extraordinaire, c'est qu'il a pris, à l'âge de 16 ans, nous sommes dans le premier point, n'est-ce pas, la conversion de 1816. Il a pris, à l'âge de 16 ans, il s'est senti appelé par Dieu au célibat. Ça s'est confirmé encore davantage plusieurs années après, mais à ce moment-là, il s'est senti appelé par Dieu au célibat. Et il en a écrit une page dans l'apologie qu'il a ensuite piffé. Mais le père Honoré a restitué ça d'après les manuscrits, et de cette façon-là, et le père Honoré dit ce que je pense aussi, que, au fond, ça éclaire très bien l'âme du Newman et l'orientation qu'il va donner finalement à sa vie dans la mission que Dieu va lui confier. Et je vais vous lire quand même un passage. Je dois mentionner bien à contre que, donc ceci n'est pas dans l'apologie, ceci n'est pas publié dans ses œuvres, mais on le trouve chez le Père Honoré à la page 39. Je dois mentionner bien à contre qu'une impression profonde qui s'empara de moi en cet automne de 1816, savoir que la volonté de Dieu m'imposait le célibat. Depuis lors, j'eus ce pressentiment d'une façon presque continue. Il était étroitement lié à mon sentiment de séparation des choses qui m'entouraient, dont j'ai déjà parlé. J'avais la ferme conviction que les fautes contre la loi de pureté étaient chacune d'elles punies d'en haut de façon rigoureuse et infaillible. J'ai encore des prières et des mémoranda de 1816 et 1821 montrant ma détresse à la pensée d'aller au bal ou au théâtre. Il y a un je ne sais quoi de puritanisme aussi chez Newman et de rigorisme dont il va se défaire un petit peu à la fois, mais je crois que c'est sa purification dans le catholicisme qui va le défaire des derniers éléments de son tendance, de sa tendance au moralisme, puisque la rencontre personnelle avec Jésus, Marie, les saints, etc., vont lui donner toute autre perspective que simplement l'importance d'une morale, si vous voulez. Cette impression dont je vais parler une fois pour toutes, je la passerai ensuite sous silence, autrement dit, même s'il n'en parlait de guère après dans l'apologie, il voit lui-même l'importance de ce choix pour toute sa vie. Là, ça a été un petit peu ce que j'ai dit sur la Vierge Marie, parce qu'il n'a pas su à ce moment-là que s'il s'était marié, son passage à l'Église catholique aurait été tout autre chose, puisque à ce moment-là, il n'était pas question d'ordonner des hommes mariés. Par conséquent, Dieu le préparait à son insu à une mission qu'il ne connaissait pas encore. Cette impression dont je vais parler une fois pour toutes, je la passerai ensuite sous silence, n'était pas fondée sur le principe catholique, la supériorité morale du célibat sur le mariage. Ça, il y va très simplement, vous savez. Le Concile de Trente le définit comme ça, mais on a tendance à dire « Oh non, égalité, mais lisez le Concile de Trente, lisez le Concile de Trente. » Supériorité du célibat sur le mariage. Je n'y ai cru que bien des années plus tard, quand je reçus de Harold Froude. Ça, c'était un ami dont la tendance à découvrir le catholicisme dans ce qu'il avait de ressources de sainteté était plus ardent et même plus perspicace que celui de Newman. Mais Newman a perdu cet ami avant même sa conversion, et ça lui était une source de grande douleur. L'origine en fut dans le sentiment qui me séparait du monde visible et s'attachait à l'idée que ma vocation exigeait le sacrifice impliqué par le célibat. Quand je débutais dans mon titre à Oriel, comme fellow, comme agrégé si vous voulez, mon esprit associait cette impression à un apostolat missionnaire ou à des responsabilités à Oxford. Donc il n'y a pas, comme dans l'expérience de Dieu est mon créateur, un repli sur soi, il y a en fait la profondeur d'une découverte qui doit déboucher sur une mission. En 1824, à la mort de mon père, je trouve cette remarque. Quand je mourrai, serai-je suivi à la tombe par mes enfants, il parle de lui-même, n'est-ce pas? Ma mère, l'autre jour, me confia son espoir de vivre pour me voir marié. Mais je pense que je mourrai dans les murs d'un collège ou comme missionnaire dans une terre lointaine. Et en 1827, il écrit ceci, dans quelques vers écrits pour l'album d'un ami après m'être comparé Snapdragon, c'est cette fleur qu'on appuie dessus et ça sort de sa pochette. Comment on appelle ça en français? Anti-Rhiner est le mot officiel. Des petites orchidées qui sont très connues et on appuie sur le bout. Enfin, vous voyez quoi. Il bordait mieux, enfin, c'est la pièce où je passais dans la solitude mes premières années, semaine du collège en juin 1817. J'exprime l'espoir de pouvoir vivre et mourir dans le toit d'un collège. Dans la suite, ce qui n'avait été qu'impression devint préférence. L'idée s'est obscurcie dans mon esprit un mois ou l'autre après, dans les années qui précèdent février 1929. Et depuis cette date, j'ai toujours la volonté et la résolution, avec la grâce de Dieu, de vivre et de mourir dans le célibat. Voilà. C'est assez extraordinaire, ça. Que Dieu m'a préparé finalement comme ça. Ensuite, alors, le deuxième point, c'est la sortie de Newman de ce cancan un peu étroit, la théologie évangélicaliste, même si ça lui reste comme une expérience spirituelle qui a orienté toute sa vie pour ce qui était sa relation à Dieu. Eh bien, le deuxième point, c'est la découverte progressive des richesses de la catholicité. J'ai mis ça sur le tableau, vous l'avez aussi dans votre plan. Ce qui se passe, c'est ceci, c'est qu'au fond, il est encore à l'âge où il reçoit de ses supérieurs, enfin de ses aînés, beaucoup de choses qu'il ne peut pas se donner à lui-même, et qu'il a une relation intime, ou en tout cas fréquente, avec des tuteurs qui étaient plus expérimentés que lui. Et il montre dans ses premières parties de l'apologie comment, avant qu'il n'ait pris qu'il n'ait atteint la maturité de prendre l'initiative de sa propre pensée, de sa propre synthèse, il a beaucoup bu, si vous voulez, dans une relation personnelle aux richesses théologiques et spirituelles d'autrui. Et c'est toujours dans les relations personnelles. Je me console lorsque je pense à mon peu d'enthousiasme pour la vie communautaire que Newman n'en parle jamais. Il ne parle jamais de réunion, ni de fraternité, ni de tout ça. Il parle de relations avec des personnes. Voilà. C'est un homme de communion qui va vers des personnes et non pas vers un groupe qui est dominé par un petit Napoléon quelque part. Il y avait un saint prêtre. Parce qu'il y a en France, vous savez, de saints prêtres. Hein? Ah, il y a de saints prêtres en France. Et alors, il y en a un, lorsque j'étais tout au début, alors, il m'a dit, vous n'êtes pas homme de communauté, mais vous êtes homme de communion. Ça m'a rassuré. Newman était ça. On dit que lorsqu'il avait fondé, ouais, je vous aime bien vous dire des anecdotes, parce que ça vous montre le réel de la vie. Lorsque il avait fondé la communauté des oratoriens à Birmingham, il devait présider au repas, et ça lui était une souffrance. Alors le soir, quelquefois, il avait tellement marre de savoir ce qu'il pouvait trouver comme sujet de conversation, parce que comme c'était quelqu'un qui était toujours dans le domaine de la réflexion de haut niveau, il n'avait pas de conversation de sociabilité courante, si vous voulez. Alors il désespérait, et puis il s'enfuyait dans sa chambre en laissant la table. Il n'en pouvait plus. Ça me réconforte, ça. Ça me réconforte. Parce qu'il y en a parmi nous aussi qui sont des indépendants, n'est-ce pas? Ah là là, bon. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il a fallu à Newman l'âme de sa tempe, de la trempe qu'il avait, pour pouvoir justement faire un peu la synthèse de tous ces éléments qui lui ont été fournis de façon positive pour finalement l'orienter vers le catholicisme. Si vous voulez, il est sorti du carcan de l'évangélicalisme et il a découvert pièce par pièce, si vous voulez, les richesses du catholicisme. Mais ça, c'est l'anglicanisme, ça, c'est l'éclectisme de l'anglicanisme. Alors, je vais mettre au tableau un petit peu les choses les unes après les autres pour vous montrer combien c'était partiel et fragmentaire. il y avait comme prévôt de ce collège de Orient, un homme qui s'appelle Hawkins, qui était un petit peu haute église, mais dans un sens rigide, si vous voulez, qui ne convenait pas. Et alors, de cet homme-là, il a appris la régénération baptismale. D'ailleurs, il va revenir là-dessus constamment comme polémique contre l'insuffisance de la théologie évangélicaliste, la régénération baptismale, c'est-à-dire qu'il faut comprendre non pas que le baptême est le sceau de la certitude que j'ai d'être sauvé dans la foi, ça c'est la conception de Luther, et au fond, Luther n'a retenu le baptême des petits-enfants que parce qu'il y avait 1000 années de tradition catholique derrière et qu'il n'osait pas l'arrayer de sa théologie ou de son ecclésiologie, si vous voulez. Et alors, lorsqu'on lui posait des questions sur l'incohérence entre la foi qui est une certitude psychologique et l'idée que l'âme de l'enfant est régénérée ontologiquement par la grâce sanctifiante et le don des trois personnes divines, eh bien, il louvoyait en disant, écoutez, c'est un problème difficile, mon grand catéchisme va en parler, mon petit catéchisme n'en parlera pas. Enfin, Luther louvoyait comme ça. Et Newman a découvert effectivement la pauvreté, la conception évangélicaliste du baptême. Vous savez, beaucoup de ces évangélistes que j'ai rencontrés à Lille lorsque j'étais professeur, ils cachaient le fait que, après un seul nombre, ils attiraient des étudiants catholiques de la Cato dans le groupe de ces évangélicalistes qui se trouvaient la rue des Stations, où il y avait aussi une communauté de cadres. Et alors, il cachait à ces catholiques, dans un premier temps, la véritable visée à propos du baptême. Et alors, lorsque ces étudiants étaient pris dans la chaleur d'une vie communautaire avec partage de l'écriture, etc., un beau jour, il le conduisait à une piscine en disant « maintenant, dedans ». C'est-à-dire qu'il mettait un certain temps pour dire que le baptême de l'enfant, le pédobaptisme, était une erreur et qu'il fallait que le baptême soit un sceau placé sur la profession de foi adulte de l'individu. Alors tout à coup, l'étudiant se trouvait conduit par le pasteur à une piscine où il devait être plongé 3 fois tout nu, si vous voulez. Voilà, c'est ça. Parce que c'était le baptême par... Et quelquefois, je me souviens d'une petite sœur de Charles de Foucault qui accueillait ce phénomène dans la fraternité, avec cette ouverture qu'elles avaient. Et alors, un jour, j'ai trouvé un évangélicaliste qui était assis à côté d'un petit chauffage d'appoint. Et alors, j'ai dit, mais petite sœur, pourquoi est-ce qu'il est là comme ça? Ah, il m'a dit parce qu'il a été baptisé ce matin et on l'a plongé tout habillé dans la piscine. Alors maintenant, il sèche la vie en étant à côté du chauffage d'appoint. Il faut être en Angleterre pour trouver des choses comme ça. En France, on les cache. Mais voilà. Donc, la régénération baptismale. Ensuite, il dit qu'un certain William James lui a donné la conviction qu'il y avait la succession apostolique dans l'anglicanisme et que cela était important pour la structuration de l'Église. Au fond, il décrit un certain William James. L'importance d'un ministère. Au fond, ceci est décisif pour le mouvement d'Oxford, comme je vous ai montré avec le sermon d'assises de Keble. L'important à mieux, c'est structurant dans le sacramentel au niveau de l'épiscopat et pas simplement au niveau du presbytérat. De quoi je vais être autrement dit succession apostolique. Et Newman y croyait ferme jusqu'après sa conversion. Et même d'après Honoré, lorsqu'il a reçu l'ordination ex nihilo, comme d'ailleurs les pasteurs anglicans qui passent au catholicisme maintenant, ne sont pas ordonnés sous condition. Ils sont ordonnés ex nihilo. Et alors, on a fait ça avec Newman à Rome, mais Newman était tellement attaché à ces réalités auxquelles il avait cru si profondément, qu'il croyait au fond qu'implicitement c'était une ordination sous condition. Mais que plus tard, il a été éclairé suffisamment pour dire non, il n'y a pas de succession apostolique dans l'Église anglicane. Donc ceci était finalement un petit peu la cheville ouvrière de ce qui sera sa poussée avec d'autres vers le renouveau catholique de l'anglicanisme dans le mouvement d'Oxford. Ensuite, il parle d'un livre qui s'appelle Analogy, un évêque anglican qui a vécu au 18e siècle et qui a fustigé Wesley à cause de son enthousiasme, comme il disait. En fait, c'était beaucoup plus profond que ça chez Wesley, mais Analogy. Et ce n'est pas l'analogie au sens métaphysique de Saint Thomas ou de la philosophie traditionnelle de l'Église. Newman n'avait pas le sens des universaux, il était empirique, il avait poussé complètement l'empirisme anglais dans ce qu'il avait de limité finalement. Il dit lui-même par exemple qu'il lui a fallu des années pour admettre qu'il y a une distinction entre la matière et ses apparences. Il allait jusqu'à là, vous voyez, ça c'est Hume, ça c'est Locke, c'est Hume. Et alors, par conséquent, ce que Newman retenait de ça, ce n'était pas l'analogie au sens métaphysique où nous la comprenons dans le catholicisme, c'était simplement des parallélismes, si vous voulez, ou si vous voulez, une sorte de structure sacramentelle, une sorte de relation sacramentelle au sens large. Entre les réalités du monde invisible et le monde phénoménal et visible, je vais mettre, parce que c'est au fond par une phénoménologie que Newman a pensé. Mais ça lui a donné quand même le sens de l'importance plus grande, ou ça l'a confirmé dans la conviction toujours qu'il avait de l'importance plus grande des réalités invisibles que les réalités visibles. Bon, c'était tout à l'inverse de la tendance actuelle du monde pour lequel le visible sensible est la seule réalité et le monde invisible n'a pas de consistance. Pour Newman, c'était le contraire. Le monde invisible était le monde qui avait de la consistance, et ce que nous savons devant, pour la plupart, nous sommes devant des illusions, si vous voulez. C'est un platonisme chez lui qui était assez poussé à un moment donné. Ensuite, il parle d'un Dr. Whately, qui en fait l'a entraîné aussi dans le libéralisme qu'il a refusé. Nous sommes dans les années 1825, dans les années 1825, qui lui a donné l'importance, le sens que l'Église est un corps, mais non pas dans la plénitude du catholicisme. L'Église a pensé comme un corps vivant, et non pas simplement comme une institution. Et ensuite, il y avait... et puis aussi, alors, Whately, je vais mettre son nom sur le tableau, qui est devenu archevêque de Dublin après. Cet homme-là était anti-érastien d'une manière caractérisée. Donc il a confirmé Newman dans son anti-érationnisme, c'est-à-dire non pas servilité par l'État. Donc il y a les éléments, voyez, de ce qui sera le futur mouvement d'Oxford, ou ses positions essentielles qui mûrissent lentement dans l'esprit de Newman. Et il y a ici aussi le fait que il est passé quand même à un certain moment par une sorte de tentation de libéralisme. Et alors, ceci voulant dire qu'il était tellement épris de ce qu'est la recherche intellectuelle et même la critique intellectuelle, qu'il est passé par un moment par la tentation du rationalisme. Et alors, il en est sorti, pour ainsi dire, par des circonstances qui l'ont secoué. Et une des circonstances qui l'a secoué, c'est la mort de sa jeune sœur Mary. C'est une sœur qui est morte d'une maladie sans doute qui était terminale pour cette jeune fille, qu'on aurait pu facilement éliminer avec des antibiotiques aujourd'hui. Je pense que c'est quelque chose comme ça. En tout cas, la mort subite de cette jeune femme l'a beaucoup secouée. Et ça l'a, pour ainsi dire, réveillé dans sa tendance vers un certain orgueil intellectuel. Je vais vous lire comment Honoré présente ça, parce que ça renfer force encore une fois cette tendance de Newman vers l'invisible comme étant ce qui est le plus important. Dans la correspondance de 1828, transparaît à plusieurs reprises, avec la nostalgie du souvenir de Mary, ce désenchantement plus ou moins conscient qui naît du spectacle d'un monde éphémère et vulnérable. Ainsi, dans une lettre de mai, Newman écrit à sa sœur Jemima, qui est la sœur aînée. Newman était l'aîné de toute la famille, mais Jemima était la plus âgée des sœurs. Jeudi, je suis allé à cheval à Curriston. La campagne était belle, avec les feuilles toutes fraîches, les senteurs, le paysage d'une telle variété. Cependant, je n'ai jamais éprouvé si intensément le caractère transitoire de ce monde qu'au moment où je prenais le plus de plaisir à cette scène champêtre. Et aujourd'hui, dans une autre course, j'ai été impressionné, plus que je ne l'aurais cru possible, par ces deux vers, chantant d'une voix solennelle, ils nous rappellent notre meilleure part. Je souhaiterais qu'il fût possible à des mots d'exprimer ces sentiments indéfinis et vagues, et en même temps subtils, qui transpercent l'âme et la blessent. La chère Mary semblait présente dans chaque arbre, cachée derrière chaque colline. Il est romantique, au fond, dans l'âme, pour une part aussi, l'humain. Quel voile, quel rideau que le monde essence! Un beau voile, oui, mais rien qu'un voile. Et le mot voile chez Newman prend, je suis sûr, le sens qu'il a dans l'Épître aux Hébreux. C'est-à-dire que l'Épître aux Hébreux met trois fois, il y a trois mentions dans l'Épître aux Hébreux à ce catechasma, ce rideau qui pendait entre le saint et le Saint des Saints dans le temple à Jérusalem pour cacher la mystérieuse présence divine sur le propitiatoire de l'Arche d'Alliance. Et alors, l'autre l'Épître aux Hébreux dit que Jésus est passé à travers le voile. Et ceci est mentionné deux fois comme ça. Ou plutôt, la première fois, c'est notre foi est comme une encre qui est au-delà du voile, c'est-à-dire que notre foi nous porte au-delà du visible vers l'invisible de Jésus assis à la droite du Père, comme dit l'Épître aux Hébreux. Je pense que c'est ça le sens que le mot voile a pour Newman. Donc il est passé par la tentation du libéralisme, mais il en était, pour ainsi dire, sorti parce qu'il était secoué par des expériences qui ont été extrêmement douloureuses. Et une autre expérience qui est extrêmement bizarre d'une certaine manière, c'est sa maladie en Sicile que vous avez dans le répertoire que je vous ai donné, c'est 1832 par là, je crois, oui, 1832. Et alors, ah ben c'est, le texte numéro 5 que vous avez, est-ce qu'on peut lire ça, le texte numéro 5 que vous avez? Oui, c'est ça. Oui, merci. Merci. Vous avez des feuilles. Vous avez des feuilles qui ont été données. C'est la contre-là. Ah, c'est l'air. Non, c'est pas ça. Mais où est-ce que j'ai mis les miens maintenant? Ah, c'est... Ah ben c'est ici. C'est ici. Le numéro 5. Mais est-ce que c'est... Oui. Est-ce qu'on peut lire le numéro 5 là?
J'arrive maintenant à deux ouvrages qui ont produit une profonde impression sur moi en ce même automne 1816, lorsque j'avais 15 ans. La contradiction de ces ouvrages fut le germe d'une inconsistance intellectuelle qui me désempara pendant de longues années. Je lus l'histoire de l'église de Joseph Miner et fus immédiatement subjugué par les longs extraits de saint Augustin, de saint Ambroise et des autres pères que j'ai trouvés. Je l'ai lu comme exprimant la religion même des premiers chrétiens. Mais en même temps que Miner, je lus l'ouvrage de Newton sur les prophéties. Cette lecture me persuada que le pape était l'antéchrist prédit par Daniel, saint Paul et saint Jean.
Et bien, on a fini dans la tête de Calvin de Luther pour éviter un écuménisme qui est illusoire. Bon. Ce que je voulais dire, c'est-à-dire que lorsqu'il sortait de cette expérience de rationalisme qui le tentait, il était toujours en but, si vous voulez, contre ce qu'il estimait être les déviations et les déformations de la tradition apostolique de l'Église catholique. Et la situation où les prétentions, comme le pensaient les Anglicans, du pape de Rome d'être le pasteur de l'Église universelle, tout cela était la preuve que le pape, au fond, était une forme de l'Antéchrist. Et il a dû se battre pendant des années encore contre ses préjugés. C'est une des raisons pour lesquelles, malgré que sa recherche patristique l'orientait toujours dans la direction du catholicisme, il a tardé à demander sa soumission à l'Église romaine. Il a tardé bien après, d'autres de ses disciples étaient partis vers le catholicisme. Donc il y avait cette espèce de polarité, si vous voulez, entre une évolution spirituelle qui va dans le sens de répondre à ce que Dieu demande et les obstacles qui restent encore dans son intelligence. Mais pour revenir un petit peu en arrière sur cette étrange maladie en Sicile, nous donne la clé de ça en disant que il s'est passé ceci, c'est qu'il est parti avec des amis, la famille Froude, pour faire une croisière en Méditerranée, et il en avait besoin après tout le labeur intellectuel qu'il avait épuisé, la publication des Ariens du 14e, etc. Mais il a laissé ses amis le quitter parce qu'il avait une sorte de fantaisie, au fond, qui était son romantisme et ses caprices, enfin, finalement, qui faisait qu'il laissait partir ses amis pour revenir, pour visiter la Sicile tout seul, pour goûter encore des paysages d'un type autre que ceux qu'il voyait en Angleterre, et pour se satisfaire comme ça l'esprit d'une manière, disons, replié sur lui, si vous voulez. Et alors, il est tombé malade, et normalement, à cause du fait qu'il n'y avait pas les possibilités de soins, même qu'il aurait pu avoir en Angleterre, Il aurait dû finalement mourir et s'en est sorti. Et ceci lui a donné la conviction que Dieu suivait son disciple et avait pour lui une mission qu'il attendait si seulement il acceptait de se soumettre et de cheminer jour par jour sans demander la lumière au-delà de l'instant présent ou de ce qui se présentait immédiatement. Et ça a donné naissance, si vous voulez, à ce poème que tout le monde connaît, l'île Carnelin. C'est justement ça que vous n'avez pas donné. Hein? Vous l'avez donné au... Est-ce que vous pouvez le passer? Moi, je lirai l'anglais, et comme ça, vous suivrez le français pendant que je lis l'anglais. Ou vous suivez l'anglais en lisant le français. Au fond, c'est un poème qui définit finalement ce que sera toute la spiritualité humaine. L'attente de Dieu. L'attente de Dieu. Parce que cette spiritualité de l'abandon dont on parle beaucoup ici à la lumière de la petite Thérèse est marquée chez lui par le fait qu'il doit toujours attendre des réponses à des questions qui ne viennent pas. C'est ça. L'agonie de son cheminement dans le mouvement d'Orsoy jusqu'au catholicisme. Toujours attendre que Dieu lui donne des réponses à des questions qui semblent ne pas venir. Et il se résout, après cette malveillance ici, à ne plus suivre ses caprices ou sa propre satisfaction intellectuelle, mais à simplement être à l'attente de Dieu de ce que Dieu attend de lui. Et c'est ça qui est exprimé dans ce poème. Vous l'avez devant vous maintenant, oui? Oui. Je lis en anglais parce que c'est... Et vous suivrez l'anglais si vous pouvez, sinon vous avez le français. Lead kindly light amid the encircling gloom. Lead thou me on. The night is dark and I am far from home. Lead thou me on. Keep thou my feet. I do not ask to see the distant scene. One step enough for me. C'est au fond l'instant présent, mais vu dans une perspective qui était la sienne, sa vocation. I was not ever thus, nor pray that thou shouldst lead me on. I love to choose and see my path, but now lead thou me on. Ces choix un petit peu capricieux, si vous voulez, ou sur le plan intellectuel, avec le libéralisme, ou maintenant avec ce caprice en Sicile qui l'a amené à la catastrophe, si vous voulez. I love to choose and see my path, but now lead thou me on. I love the garish day, and spite of fears, pride rule my will, remember not past years. So long thy power hath blessed me, sure it still will lead me on, o'er moor and fen, o'er crag and torrent, till the night is gone. And with the morn those angel faces smile, which I have loved long since, and lost a while. Parce qu'il avait dit là qu'il avait perdu un peu le sens du fait que derrière le monde sensible, il y a le monde des invisibles êtres spirituels qui sont beaucoup plus importants que ce monde sensible. Il avait perdu un petit peu la vision de ça dans son orgueil ou son caprice personnel. Et puis, il revient ici maintenant en Angleterre en pensant qu'en poursuivant ce mouvement d'Oxford avec Keeble et Pusey, il accomplira la mission que Dieu attend de lui en attendant où ça mènera. Voilà. Et c'est dans cet esprit-là que toute la suite, si vous voulez, de son cheminement spirituel doit se situer. J'arrive maintenant au numéro 5, au petit E. La réflexion sur le problème de la connaissance religieuse. Newman affirme dans l'apologie que le principe de Buckle, les connaissances qui orientent notre vie sont fondées sur la probabilité et non pas sur la certitude logique, ont été le point de départ de ses propres réflexions de la connaissance religieuse. Je vais mettre ça sur le tableau parce que c'est fondamental. Newman n'a rien à faire avec la logique pour orienter une vie. Pour lui, notre vie, notre état de créature est tout simplement, lorsqu'il s'agit de ce qu'il appelle la connaissance réelle, c'est-à-dire les êtres dans leur individualité imprévisible, si vous voulez, et leur consistance qui dépasse les possibilités de nos sens de creuser le mystère de ces êtres, eh bien, nous sommes tout entiers dépendants de la probabilité. Et d'ailleurs, il raisonne d'ailleurs tellement qu'il est presque convaincant. Il dit, ma mort n'est qu'une probabilité. Je n'ai aucune preuve que je vais mourir. Et vous dites, mais c'est impossible ça. Mais c'est parce qu'il n'a aucun sens des universaux à la manière scolastique. Il n'a rien à faire avec une définition générale de l'homme. Il n'a rien à faire avec ça. C'est l'empirisme anglais, ça. C'est Occam, ça. Il y a nominalement des individus, et c'est ça qui est important. Et alors, par conséquent, nominalement, on ne sait pas si je vais mourir ou pas. Parce que le fait que tous les autres sont morts, ça, c'est leur problème. Ça, c'est leur destinée individuelle, mais la mienne. Et vous dites, mais c'est ridicule, ça. Non, du point de vue de Newman, c'est pas ridicule. Ou alors, je vais aller aux toilettes et je ouvre un robinet et l'eau coule. Et je dis, bon, ben voilà, ça c'est cause et effet. Mais Newman dira, vous n'êtes pas certain que l'eau va couler lorsque vous ouvrez le robinet. Vous vivez d'une probabilité. Et moi, effectivement, de temps en temps, au séminaire à Ars, je suis allé au robinet et il n'y avait rien pas d'eau. Parce que justement, l'ouvrier en bas avait coupé l'eau et que je ne pouvais pas en avoir. Donc, c'était probable que l'eau allait tomber. Vous voyez, ben, Newman est comme ça. Empirique jusqu'à ce point-là. Ah oui, ça déroute. C'est pour ça que Chadwick dit, oh, la grammaire de l'assentiment, c'est le plaquage de cette étude catholique sur l'empirisme, en fait, qui ne se prête pas à cette façon-là de savoir qu'on peut passer à la certitude de la foi catholique comme les catholiques entendent. Je crois que ce n'est pas juste. Je crois que c'est dans les 20 années de réflexion sur ce problème de la certitude intellectuelle des motifs de crédibilité qui conduisent à la foi, parce que la foi n'est pas non plus au bout d'un raisonnement logique, mais l'Église nous demande non pas simplement d'y aller en disant bon ben je vais risquer ma vie sur ci ou cela. L'Église nous dit les motifs de crédibilité sont suffisants pour notre raison, pour que nous fassions de sauver la foi. Par conséquent, il faut une certitude intellectuelle et pas simplement affective ou sensible. Et alors, Newman a passé 21 ans ou 25 ans à essayer de méditer sur ce problème-là à partir de son empirisme. Et alors, il nous a donné la grammaire de l'assentiment. Donc, je mets cette phrase sur le tableau. Newman affirme. Si je pense que je viens de dire, vous dites, j'ai le concept homme, par conséquent, je sais ce que c'est qu'un homme. Et Newman dira, vous n'avez atteint aucun individu humain avec votre universel. Aucun, parce que chaque homme est un particulier irréversible. Ah, ça, c'est Newman, ça. Mais le Christ est comme ça, quand même. Le Christ n'entre dans aucune catégorie. Ben, c'est-à-dire que oui, il est homme, mais il n'est pas l'humanité. Il est homme, mais il n'est pas l'humanité. Jésus n'est pas l'humanité. L'argument pour l'ordination des femmes dans l'Église anglicane, c'est de dire Jésus a pris l'humanité. Et souvent, d'ailleurs, les pères pensent l'universalité du salut à partir d'un certain... une certaine philosophie grecque où il y a les universaux et puis par conséquent si Dieu est devenu homme c'est toute l'humanité parce que l'humanité embrasse tous les hommes, mais l'humain ne raisonne pas comme ça. Jésus est un particulier qui est un chef de toute la famille humaine et c'est, en fait c'est ça le catholicisme. Si vous travaillez Newman, peut-être que vous pouvez formuler ça mieux que moi, vous savez, parce que c'est difficile, hein? Ah, c'est difficile, hein? Ça déroute là, lorsqu'on lit Newman. Je pense que c'est la principale raison pour la raison que la lecture du Newman est toujours un peu une déroute, si vous voulez. appelés par ce milieu reconnaissant qui oriente notre vie, sont fondés sur la probabilité et non pas sur la logique. Mais vous aviez ces schizophrènes en Angleterre, vous n'aviez pas eu ça en France. Hein. Cet empirisme poussé comme ça, c'est-à-dire que qui vont faire une philosophie, qui vont pousser la recherche dans les principes des mathématiques, etc., et des sciences exactes très loin, et qui vont parler un empirisme absolument hermétique au niveau de la philosophie, et qui vont se convaincre dans la vie concrète comme tout le monde, comme s'il y avait deux vérités, hein, la vérité d'intelligence au niveau logique et la vérité réelle qui est dépendante de la probabilité des êtres réels que nous rencontrons, ou que les êtres réels que nous rencontrons, nous ne pouvons jamais les creuser jusqu'au bout, par conséquent ils nous renvoient à des probabilités. Oui.
Après connaissance.
Oui, j'ai fait une erreur dans la France, ça, c'est ça.
Après connaissance.
Newman affirme dans l'apologie que le principe de Butler, que les connaissances qui orientent notre vie sont fondées sur la probabilité, non pas sur la logique. Ça, c'est fondamental à tout le grammaire de l'assentiment, ça. Et alors, le problème à ce moment-là, c'est comment est-ce qu'on va, à partir de cette, que la probabilité est le guide de la vie, passer à la certitude de la foi. Et lorsque Newman a parlé avec Keeble, qui était une âme très religieuse, et Keeble a dit, « Ah, c'est l'amour, c'est la composante de l'amour qui nous fait passer à la certitude de la foi dont nous avons besoin. » Parce qu'elle saute au-delà de tout ce qu'il y a d'incertain dans ses probabilités, et par conséquent, nous adhérons au Christ parce que nous l'aimons, ou nous adhérons à toutes les données de la foi parce que nous les aimons. Et alors, ça paraissait satisfaisant à Newman pendant un certain temps, et lorsqu'il est devenu catholique, surtout, il a dit non, l'Église ne nous demande pas, ne nous dit pas que la foi, comme Günther Hermès a fait un compromis avec le rationalisme, là où un Kant dirait oui, mais on peut prouver logiquement les vérités dogmatiques ou bien elles ne sont rien. Et Günther Hermès a dit oui, mais alors ce que la foi ajoute à ces preuves logiques des dogmes de la Trinité ou autre chose, c'est l'ardeur de l'amour, c'est l'adhésion de l'amour. Donc c'est composé avec le rationalisme. Mais Newman n'accepte pas non plus le fait de composer avec l'empirisme pas simplement l'élan de l'amour. Alors c'est pendant 20 ans qu'il cherche à savoir comment formuler le fait que comment justifier le fait que l'Église demande que les motifs de crédibilité soient des certitudes au niveau de l'intelligence. Comment est-ce qu'on arrive? Comment est-ce que ces probabilités nous font donner au motif de crédibilité le statut de certitude sur lesquels nous pouvons appuyer le saut de la foi? Et il a passé 20 ans avec ce problème-là. Et le résultat, c'est la grammaire de l'assentiment. Vous saisissez, hein, parce que c'est un peu subtil tout ça. Hein. Mais il faut lire la grammaire de l'assentiment, c'est tout ce que je peux vous dire. Peut-être que quand même je prendrai ici à la fin quelque chose qui éclaire. Il y a une note ici de ce père dominicain qui a traduit c'était un spécialiste de Newman qui a concentré toute sa vie sur Newman, finalement, comme dominicain, je ne sais pas dans quelle maison, il était Toulouse ou quelque chose comme ça, et il a traduit pour l'édition Bouygues-Doncel la grammaire de l'assentiment, et il enseignait à ses élèves là, si bien que Vincent Siré ou d'autres qui sont mes confrères Ars ont cette appréciation de Newman à cause de ce père. Et alors, où est-ce que je peux trouver ça? C'est difficile, c'est... Mais après avoir parcouru la grammaire de l'assentiment, nous comprenons sans peine que la réponse proposée par Keble, elle est acceptée comme suffisante par Newman dans un certain temps, ne pouvait pas satisfaire aux exigences intellectuelles et lui fournir des arguments valables en face des sceptiques ou de savants agnostiques du type de William Froude. Certes, l'influence de Keble, qui est celle d'une âme profondément religieuse, et son intuition concernant la certitude de la foi gardera son emprise sur l'âme de Newman. Celui-ci sera toujours persuadé que foi et amour sont dirigés vers un même objet, que c'est dans la contemplation de cet objet qu'ils vivent, que c'est une saisie personnelle d'un être personnel. C'est bien le God and myself, le Dieu et moi-même, mais il est indispensable pour cette saisie d'être certain absolument que cet être existe et pourrait existe bien aussi bien que moi-même, même mieux que moi-même. Et autrement dit, un des motifs de crédibilité sur lequel doit s'appuyer cette foi catholique, c'est la certitude de l'existence de Dieu. Sinon, il n'y a pas de possibilité de recevoir sa révélation. Et alors, il caricature maintenant Newman l'attitude de ces empiristes qui ne voient pas la nécessité de ça avec cette manière unique de parler. « Oh Dieu, s'il existe un Dieu, sauvez mon âme si j'en ai une. » Mais qui peut prier un être dont l'existence est mise sérieusement en doute? J'estimais que M. Keble répondait à cette difficulté en attribuant la fermeté de l'assentiment que nous donnait à la doctrine religieuse, non pas aux probabilités qui l'ont amené, mais à la puissance vivante de la foi et de l'amour qui les accueillait. En matière religieuse, il semblait dire que ce n'était pas seulement la probabilité qui nous donnait une certitude intellectuelle, mais la probabilité telle qu'elle est utilisée par la foi et l'amour. Mais ce n'est pas suffisant, finalement. Il faut qu'il y ait une certitude, même naturelle, même de l'intelligence travaillant à l'intérieur d'elle-même, si vous voulez, pour fonder les motifs de crédibilité intellectuellement. Et ça, Newman a bataillé avec ça à partir de son empirisme. Point suivant, c'est pas facile hein, de dire ça clairement, mais voilà. La découverte d'une profondeur des pères de l'Église. Et au fond, le lien qu'il y a entre ce point-là et le suivant, et le précédent, c'est précisément que c'est cette convergence des témoignages des pères qui sont le cumul de probabilités que Newman cherchait pour que la certitude intellectuelle puisse y arriver. Alors, par conséquent, c'est cela qui va donner dans la grammaire de l'assentiment comme étant la possibilité pour l'intelligence de passer à la certitude intellectuelle, le cumul des probabilités. Et au fond, c'est son savoir patristique et la manière dont il l'a déployé qui est l'exemple dans sa propre vie de la manière dont il va élaborer ensuite dans la grammaire de l'assentiment cette idée qu'il faut un cumul de probabilités qui culbute l'intelligence en le sens de l'interprétation des motifs de crédibilité ou d'un motif de crédibilité. Et alors vous avez cette importance de l'étude systématique des pères, le numéro 6 que vous avez là. Est-ce qu'on peut vérifier le numéro 6? Vous voyez, il dit bien que la recherche pacifique entre dans la source des opinions qui sont centrales dans son cheminement. Est-ce qu'on peut le lire? Là, il me reste à mentionner.
Il me reste à mentionner une autre source de mes opinions et non la moins importante. Au fur et à mesure que je me dégageais de l'ombre du libéralisme qui avait obscurci ma route, ma dévotion revenait au père de l'Église, et durant les grandes vacances de 1828, je commençais à les lire chronologiquement, débutant par saint Ignace et saint Justin.
Eh bien, de Lubac a fait ça, pendant la nuit. Continue, oui.
Vers 1830, M. Eugrolles, qui avec M. Plus tard doyen de Canterbury, était chargé de trouver des écrivains pour une bibliothèque théologique et proposait d'écrire pour eux une histoire des principaux conciles. J'acceptai et commençai de suite à étudier le concile de Nicée. C'était me lancer sur un océan aux courants innombrables, et je fus d'abord rejeté en arrière sur l'histoire antérieure à ce concile, puis sur celle de l'église d'Alexandrie. L'ouvrage parut enfin sous le titre « The Arians of the 4th Century », les 422 pages qui composaient les 117 premières ne traitaient que de manière préliminaire.
Oui, le matière préliminaire, c'est probablement la méthodologie justement, oui.
Le concile de Nicée n'apparaissait qu'à la 254e et était traité en une vingtaine de pages au plus. Je ne sais quand j'appris pour la première fois à considérer l'Église primitive comme la véritable source des doctrines chrétiennes et la base de l'anglicanisme. Mais je puis certifier que l'évêque Bull, dont je lus à cette époque les ouvrages, fut mon principal initiateur. Le cours de lecture que je poursuivis en composant mon ouvrage ne pouvait que développer ce principe dans mon esprit.
Voilà. On arrête là pour la pause peut-être.